Comme dit ce matin, parce qu'il était au premier cours, il me semble qu'il nous est bon, ensemble, ce soir, de nous unir aux quatre prêtres, ou plutôt aux quatre diacres, mais qui vont être ordonnés prêtres tout prochainement, et qui ont trouvé un petit peu leur vocation chez nous, à des titres différents. Parce que vous savez que demain, Thomas Genter va être ordonné prêtre à Rimont, en même temps que Marie-Joseph Gauthier va être ordonné prêtre à Noyon par notre évêque, en même temps que Père Guy qui a fait sa retraite avec lui, et que Luc de Villers, qui a été ici aussi pendant plus d'une année, 2 ans je crois, va être ordonné le 25 juin à Toulouse, dans le Saint-Dominique, ordonné prêtre. Et puis que le frère Michel, père jésuite, qui a fait son 3e an, qui est revenu ici, qui fait sa retraite maintenant, va être ordonné prêtre lui aussi à Bruxelles, je crois que c'est le 25 juin aussi. Et il se trouve qu'en même temps qu'il y a toutes ces, qu'il y a ces ordinations sacerdotales, il y en a 5 anciennes de l'Arche, de la ferme de l'Arche, hein, qui font leur profession aussi cette année. Hein, parce qu'il y a eu Chantal qui avait profession mardi dernier, puis il y a les deux Éric, celui de l'Oasis, et le petit Éric Pompier qui a été... qui était venu à la ferme, qui a été même pendant un temps, qui va être faire profession à Chartreuse, le petit frère de Bethléem, et puis sœur Laure, et puis sœur Evelyne, enfin, qui vont faire profession le 1er juillet aussi comme sœur de Bethléem. Alors, je pense que ça nous fait prendre conscience, très particulièrement pour notre petite communauté de la ferme et tous ceux qui sentent, qui veulent un petit peu s'y rattacher d'une manière spirituelle, parce que je dis que c'est avant tout une communauté qui veut être très ouverte. Enfin, la place et le rôle que nous avons pour prier pour les prêtres. Les prêtres et les religieux. Et j'aime rapprocher ces ordinations sacerdotales et ces professions religieuses, parce que je crois que profondément dans l'esprit de l'Église, et Vatican II l'a très fort remis en lumière, et les religieux, c'est ceux qui veulent avant tout suivre Jésus comme victime de son sacrifice. Ils veulent être le plus unis possible à Jésus, victime d'amour, intimement liée au mystère de Marie. Ma Marie est la première religieuse dans l'Église, elle a commencé avec Joseph, et comme état, un état où on renonce par les 3 vœux à beaucoup de valeurs réelles humaines, mais pour les mettre tout entières au service, que sa vie soit le plus possible au service de l'amour. Et de cet amour qui, en notre Seigneur, a été... s'est manifesté surtout à la croix dans le sacrifice. Grand mystère de Jésus, c'est qu'il est à la fois prêtre et victime en même temps. Et c'est pour ça que le Concile a très fort rapproché les prêtres, en séparant beaucoup plus qu'on ne faisait autrefois le prêtre des clercs, et en même temps, les religieux, montrant comment tous les deux avaient des rôles très importants dans l'Église de Jésus. Alors, il est certain que quand la ferme s'est établie comme foyer, ça a été pour permettre, aider un petit peu la place du prêtre à l'Arche, pour assurer qu'autour de l'Eucharistie et dans les offices de la semaine, pour le, il est toujours comme des permanents, hein, il n'y a pas de, de temps où, en quelque sorte, la communauté est partie, donc il n'y a plus de service religieux, et qu'au contraire, pour que nous puissions être vraiment un centre religieux très, très permanent, et puis qu'il y ait tout ce travail de rayonnement autour du sacerdoce de notre Seigneur. Alors il me semble qu'il ne faut pas que nous laissions passer ces jours, qui restaient là. Il y a déjà eu d'autres prêtres, quand Gary a été ordonné l'année dernière, mais la première année, ils sont si nombreux. Et que ça nous fait comprendre que dans les desseins de Dieu, à un moment où le pape insiste tant sur les vocations sacerdotales et religieuses, parce que chaque fois qu'il y a une journée pour les vocations, c'est pour les deux. Eh bien, que parmi les rôles providentiels de l'Arche, il y a certainement de pouvoir aider certains à découvrir leur vocation, à se préparer. Alors, il me semble que nous est bon de réfléchir ensemble. Je voudrais surtout ce soir vous parler justement du sacerdoce, et la place du sacerdoce dans l'Église de Jésus. Puisque nos petites conférences du soir sont surtout spirituelles, vous ne pourrez pas faire quelque chose d'historique trop, si vous voulez, c'est voir tout de suite comment le sacerdoce dans l'Église, c'est de fait un très grand mystère, mais qui se rattache tout de suite au sacerdoce de Jésus lui-même. Et pour comprendre le sacerdoce des prêtres, il faut le rattacher tout de suite au sacerdoce de Jésus lui-même. Et ne pas séparer ce que le Vatican II a appelé, vous voyez, ce sacerdoce universel, royal et prophétique de tous les chrétiens. Et puis le sacerdoce ministériel, qui est le sacrement de l'ordre. Vous voyez, tous les deux se rattachent directement à Jésus. Ce matin, en terminant le cours, je vais vous montrer comment l'Église de Jésus, la religion plutôt que Jésus avait établie, c'était avant tout le corps mystique, c'était essentiellement une religion mystique. Parce que par la grâce sanctifiante qui nous est donnée, nous sommes tous rattachés immédiatement, directement à Jésus, devenons membres de son corps. Et nous ne sommes pas comme des petites plantes, chacune différente, mais en ayant Jésus simplement comme jardinier, en étant tous sur la même terre. Mais c'est le corps de Jésus, vraiment, qui est l'arbre. Nous sommes tous des petits sarments, mais il n'y a qu'une source de vie, qui est Jésus lui-même. Et quand nous voulons bien comprendre tout ce mystère du corps mystique, en réalité, en prenant tout ce qu'il y a dans saint Paul et en voyant tout ce que les saints ont explicité, ont développé dans l'Église, on voit que Jésus n'est pas simplement tête du corps mystique, mais qu'il est en même temps cœur du corps mystique et qu'il est en même temps source de vie du corps mystique. Et que nous sommes tous les membres qui nous rattachons à la même tête, au même cœur, et c'est la même source de vie. Et c'est par Jésus que nous sommes rattachés, par la personne même de Jésus, en faisant partie de son corps, que nous sommes rattachés au Père et au Saint-Esprit. Donc, que notre vie chrétienne nous fait entrer tout de suite dans le mystère de la Sainte Trinité, comme un prolongement de ce mystère de la Sainte Trinité. Vous voyez ce que nous avons vu souvent à propos de l'Église, mais c'est très bon de le rappeler au point de vue du sacerdoce. Quand le Père a envoyé son Fils sur la terre, quand Jésus est venu à la fois nous révéler le mystère de la Sainte Trinité, et non pas seulement le révéler, mais en même temps nous donner la grâce pour pouvoir que chacun de nous puisse s'y rattacher, et en nous révélant le mystère intime de la vie de Dieu, nous révéler le mystère intime de notre personne humaine. Mais alors là, en donnant à cette personne humaine de nouvelles capacités, ben, pour que cette personne humaine puisse être reliée directement, immédiatement, pas au Dieu créateur seulement, mais au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Ben, pour que dans notre vie humaine, nous vivions tout de suite de la vie même éternelle de Dieu, de la vie d'amour des personnes divines, et que nous ne vivions pas d'abord d'une vie créature, mais d'une vie qui est tout de suite alimentée, qui a sa source, vous voyez, dans une personne divine incarnée. Ben, ça, c'est un mystère qui nous dépasse complètement. Mais c'est très, très important de nous placer tout de suite dans cette perspective pour comprendre ce que c'est que le sacerdoce. Bon. Il y a quelques années, on m'avait demandé de faire une petite feuille sur le rôle du prêtre à l'Arche. J'avais fait, parce qu'on me l'avait demandé rapidement, soit en temps que c'était très difficile, parce que, au fond, on vivait l'Arche, semblait permettre de vivre le mystère du sacerdoce d'une façon encore plus limpide, plus profonde que bien souvent, mais ça faisait prendre comprendre que ben, le sacerdoce, c'est un très grand mystère. Ben, c'est vrai. Tout de suite, quand on parle du sacerdoce, on pense au médiateur. C'est vrai, toutes les images qui sont données du sacerdoce rappellent le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vrai que tous les chrétiens ont à être médiateurs entre ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, non, entre tout l'ensemble de la création et les personnes divines. Non, que depuis que Jésus est venu sur la terre, savons que si les anges sont les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, et que les prophètes continuent leur rôle, ben, celui qui est vraiment le médiateur substantiel, qu'il réalise de la façon la plus plénière et la plus immédiate, bien c'est Jésus comme fils de l'homme. Et ce sont les hommes qui sont appelés à continuer cette mission de Jésus. Maintenant, alors, c'est tout de suite à Jésus qu'il faut nous placer. Et voir que le rôle essentiel du prêtre, c'est un rôle très humble. Et je pense que pour bien comprendre la place du prêtre dans l'Église, et par là bien comprendre ce que c'est que cette Église de Jésus, cette nouvelle alliance qui a été établie par Jésus, il faut voir que le rôle du prêtre, c'est pas celui de... Ce n'est pas le prophète de l'Ancien Testament, quelque chose de nouveau. Le prophète de l'Ancien Testament, c'était avant tout l'homme de la parole. Vous voyez, bon, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont eu beaucoup de fonctions. Les uns, comme les patriarches, c'était les pères, les anciens. Il y a eu des prophètes qui ont été aussi législateur, comme Moïse a été prophète avant d'être législateur. Il y a eu des prophètes, au fond, qui ont été aussi, je dirais, juges. Les bergers, c'était aussi des gens choisis par Dieu, ont été rois. Il y a des prêtres de l'Ancien Testament qui ont aussi été prophètes, mais ils n'étaient pas tous nécessairement prophètes. Mais le sacerdoce de Jésus, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Au fond, nous ne pouvons pas comprendre le sacerdoce de Jésus sans le mystère même de l'incarnation. C'est le prolongement de l'incarnation de Jésus. Et sans le mystère de la Sainte Trinité, parce que, de fait, impossible de comprendre l'incarnation sans le mystère de la vie intime de Dieu. Cette vie d'amour de Dieu. Et le prêtre, c'est à la fois tout simplement, je dirais, l'homme, avant tout l'homme des sacrements, et l'homme de l'Eucharistie. Vous voyez, au fond, parmi ceux qui vont être ordonnés prêtres, ils étaient diacres avant. Diacres, ils avaient le pouvoir de vous donner la parole. Tout à fait, ils pouvaient faire l'homélie même. Diacres, ils pouvaient même baptiser. Mais il y a un monde entre le diacre et le prêtre. qu'il y a unique au prêtre, c'est que c'est le seul qui peut consacrer l'Eucharistie. Ce mot qui est employé dans la théologie, qui apparaît presque très réaliste, saint Thomas dit que le prêtre peut confectionner l'Eucharistie, peut faire l'Eucharistie, peut faire le sacrifice. C'est ça, ça coule, ça que j'ai fait. Ça, c'est ce qu'il y a au fond d'unique. Le diacre ne peut pas. Il peut donner l'Eucharistie, mais pas offrir le Saint-Sacrifice. Et tout de suite, Jésus a rattaché le sacrement qui peut-être forme autant le prêtre que l'Eucharistie. Et psychologiquement, peut-être le forme encore davantage. C'est le sacrement de la réconciliation. Et saint Thomas d'Aquin, quand il en parle, il dit « Celui qui a pouvoir sur le corps de Jésus a par le fait même pouvoir aussi sur le corps mystique. » Et quand vous regardez pendant ce temps pascal, nous l'avons revécu, la première apparition de Jésus à ses apôtres, et quand il leur donne la paix, quand il vient les réconcilier, puisqu'au fond, tous, ils avaient fui. Jean était déjà réconcilié parce qu'il avait été à la croix, mais tous les autres, au fond, ils sentaient qu'ils n'avaient pas été fidèles, n'avaient pas suivi Jésus jusqu'au bout. Il avait été choisi pour mener la mission de Jésus. Et quand Jésus remplissait cette mission, ils ont tous été, ils avaient fui. Aucun d'eux n'était là. Au fond, sauf Jean. Nous, on comprend très bien que quand Jésus leur réapparaît, la première chose, pauvres apôtres, ils devaient tous se dire, mais bon, est-ce que nous sommes encore apôtres ? Au fond, cette alliance que Jésus a établie avec nous, au fond, nous l'avons en quelque sorte rompue. Puisque, au fond, Jésus nous l'avait bien dit, il venait sur la terre, non pas pour apporter la parole, il venait pour accomplir cette parole, pour accomplir, et c'était par la croix, de fait, qu'il voulait l'accomplir. Et, au fond, il n'était pas là. On voit très bien le premier, Jésus, la paix soit avec vous. Mais la force que prend ce terme de paix quand Jésus le dit à ses apôtres, au fond, c'est le pardon qui leur donne. C'est la paix quand deux personnes se sont opposées complètement, et puis que celle qui, au fond, qui a été le plus offensé, vient retrouver l'autre et dit ben, la paix, mais une paix divine, une paix d'amour. Bon, et puis tout de suite après, Jésus dit leur dit, recevez le Saint-Esprit, les péchés sont remis, à qui vous les remettrez. C'est très très émouvant parce que il ne faut pas que nous oublions que Jésus a été mis à mort parce qu'il s'était dit le Fils de Dieu. Et que ce que les grands prêtres lui reprochaient avant tout, c'est d'avoir dit « tes péchés sont remis ». Et pas d'avoir fait des miracles, que les prophètes de l'Ancien Testament en avaient fait, mais d'avoir fait ce qu'aucun prophète n'avait jamais dit. Jamais aucun prophète n'avait dit hein, « tes péchés sont remis ». Et au fond, les grands prêtres disaient bien « il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés ». Il a blasphémé, il a dit qu'on remettait les péchés. C'est sûr que ça a été la grande... de Jean au pied de la croix, sa détresse extrême, avant que Jésus l'ait donné à Marie, l'ait confié Marie, et qu'il l'ait confié à Marie, c'est bien, c'est sûr de savoir que lui croyait toujours à la mission que Jésus lui avait donnée. Mais il se rendait compte combien cette mission était redoutable. Et s'ils avaient mis à mort Jésus, comment pourrait-il supporter que de simples messagers de Jésus, de simples instruments, messagers nouveaux, puisqu'après tout, Jésus comme fils de Dieu avait le pouvoir d'effacer les péchés, il pourrait donner ce pouvoir à la fois de consacrer et d'effacer les péchés. Mais vous voyez, ces deux sacrements, c'est vraiment ça qui caractérise le prêtre. Bon. Mais, et vous savez combien notre pape a insisté sur ce plan. Oui, parce que après le concile avait beaucoup insisté sur le fait qu'on avait à donner la parole de Dieu. Le concile avait beaucoup insisté sur le fait que les sacrements, ce n'étaient pas simplement des rites, des rites sacrés, hein, comme peuvent être toutes les cérémonies sacrées, comme il y en a eu dans toutes les religions, hein, la religion mosaïque en particulier, mais dans toute religion, il y a des rites sacrés. Hein, les rites sacrés, ce sont des rites extérieurs, hein, qui ne sont pas comme but immédiatement la justice des hommes, et pas pour établir la justice entre les hommes, mais pour que montrer que les hommes reconnaissent Dieu comme leur créateur. C'est la vertu de religion, les signes de la vertu de religion. Mais les sacrements sont tout à fait... Ce sont des signes d'amour. Sont des signes des trois vertus théologales, de la foi, de l'espérance et de la charité. Mysterium fidei, vous voyez, mais mystère d'une foi qui est en même temps une foi vivante par l'espérance et d'une foi aimante par la charité. Alors, ces signes, comme ce sont des signes d'amour qui sont donnés nécessairement dans la foi et dans l'espérance, ces signes supposent nécessairement une préparation pour les recevoir. Ces signes supposent que nécessairement le prêtre est en même temps le charisme, le don, de pouvoir donner une parole qui prépare. Parce que les sacrements, ce sont d'aucune manière des rites magiques, mais ce ne sont même pas des rites simplement sacrés. Oui, qu'on peut faire ça. Il faut qu'on les compose comme des actes d'amour conscients. Hein, c'est pour ça que pour le baptême, c'est le parent qui remplace le tout petit enfant. Et c'est pour ça que quand le prêtre donne, quand le petit enfant reçoit le sacrement de baptême, il y a en même temps une grâce très très particulière qui est accordée aux parents pour élever leur enfant. Hein, voyez, d'où. C'est ça le mystère du prêtre. C'est d'être le ministre de ces deux sacrements, de l'Eucharistie et du sacerdoce. Plutôt de l'Eucharistie et du sacrement de pénitence, de la réconciliation. Alors, cette année du jubilé, si le pape a montré que c'était providentiel que ce soit l'année du synode réuni pour la réconciliation, sent très bien que dans les préoccupations essentielles du pape, c'est de faire reprendre conscience aux fidèles, mais d'abord, avant tout, aux prêtres, quelle est leur identité. Mais là, si l'Eucharistie, si le sacerdoce, vous voyez, c'est un sacrement. Donc un sacrement, c'est le sacerdoce lui-même doit être un signe d'amour. Le prêtre n'est pas simplement celui qui a le pouvoir d'établir l'Eucharistie, de faire l'Eucharistie qui est le Saint-Sacrement. Il n'est pas simplement celui qui a le pouvoir de donner le sacrement de pénitence, de donner le pardon. Mais Jésus a voulu que lui-même reçoive un sacrement qui permettent que quand il remplit ses fonctions, il les remplisse avant tout avec amour. Vous voyez, que quand il remplit ses fonctions, il soit lui-même un témoin de l'amour de Jésus. Vous voyez, donc, quand on veut bien, surtout le jour d'une ordination, le jour d'une ordination, il ne faut pas simplement penser au caractère, au pouvoir nouveau que le prêtre reçoit. Il faut encore beaucoup plus penser à la grâce sacramentelle, c'est-à-dire à cette grâce nouvelle qui lui est accordée, à cette modification de sa grâce sanctifiante, l'enracinement nouveau, l'extension nouveau de cette grâce sanctifiante, qu'on appelle la grâce sacramentelle. Et pour que ces pouvoirs redoutables qui lui sont donnés, non seulement ne soient pas un obstacle pour lui, pour sa sanctification, mais qu'au contraire contribuent à sa sanctification. Jésus y tient tellement. Je vous avoue que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé. Le jeudi saint, c'est le jour où l'Église célèbre l'institution de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce. Le jeudi saint, c'est le jour de la grande fête pour les prêtres. Le jour où c'est le souvenir où Jésus a établi justement le sacrement. Et quel est l'évangile que l'Église, inspirée par l'Esprit Saint, a choisi ? Ce n'est même pas l'évangile où Jésus lui-même enseigne ce que c'est que le pain de vie. Bon, énormément d'évangiles sur l'Eucharistie. C'est l'évangile qui montre, quand Jésus monte par le lavement des pieds, à ses apôtres, particulièrement à Pierre, qu'il ne faut pas qui soit comme les chefs des autres communautés, mais qu'il faut qu'il soit essentiellement, vous voyez, des serviteurs. Qu'ils ont à être serviteurs à un type nouveau. Mais pas seulement des serviteurs, comme tous les serviteurs peuvent être au service des autres, mais des serviteurs humbles. Vous voyez, les deux vertus les plus importantes pour le prêtre, les deux vertus qu'il faut demander pour eux le jour de leur sacerdoce, c'est d'une part la charité, l'amour. Parce que tout leur rôle, ce sera à l'Eucharistie de présider à la charité. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire présider à la charité. Présider à la charité, ça ne veut pas présider à quelque chose de sacré. Donc, par une certaine attitude, au fond, où c'est la hiérarchie qui est au premier plan. Bon, le plus important quand on prête de la messe, ce n'est pas qu'il soit sur des gradins. C'est pas, au fond, pour bien montrer qu'il n'est pas sur le même gradin que le diacre, par exemple, ou qu'il est un petit peu sur... Ah, bon, s'il est sur un lieu un petit peu plus haut, c'est pour que tout le monde le voit, pour une raison purement pratique. Et puis tout spécialement pour que les plus petits, les tout petits enfants, les plus pauvres, les nains, tout cela puisse se sentir en communion intime avec lui. Vous voyez, présider à la charité, c'est un très grand mystère. C'est aider que dans la communauté, ce soit la charité qui prie. Au fond, dans toute communauté, c'est toujours difficile que ce soit l'amour qui prie. Vous voyez, dans toute communauté qui réunit beaucoup de gens, n'est-ce pas, il y a toujours le danger que ce soit les compétences, les responsabilités, vous voyez, que ce soit ne serait-ce que les hiérarchies qui viennent de l'âge, ou qui viennent des dons naturels, ou qui viennent encore même des charismes que Dieu peut faire, vous voyez, que celui qui a du savoir-faire, que celui qui sait parler, que celui qui sait présenter, au fond, ne soit pas lui qui soit à la première place, ne soit pas lui qui préside, au fond, qui domine l'assemblée. Pour que ce soit une assemblée vraiment comme Jésus le veut, il faut qu'elle soit au plan de la charité. Mais d'une charité dont le modèle, c'est Jésus lui-même qui l'a donné. Et Jésus, quand est-ce qu'il nous a donné, manifesté le mieux son amour? C'est à la croix. C'est dans son sacrifice. Il nous a sauvés, non pas par sa parole, non pas même par un exemple de vie, au fond particulier, même par sa vie cachée, même par une vie de souffrance, même par une vie persécutée. Non, il a voulu librement, lui-même, s'offrir en sacrifice. Et donc, la charité surnaturelle, nouvelle, il ne suffit pas de passer au point de vue de l'amitié pour comprendre ce que c'est que la charité surnaturelle. Il ne suffit pas de lire le livre de l'amitié de Cicéron. Je n'ai pas à dire tous les traités de l'amitié d'Aristote. Non. Au fond, c'est un mystère. C'est un nouvel amour. Non. C'est l'amour qui est à l'intérieur même de la Sainte Trinité, mais qui a été signifié et qui a été accompli comme il pouvait l'être sur la terre parmi des hommes pécheurs, un monde de péchés. Bon, et que Jésus, fils de Dieu, c'est par son sacrifice. Donc, c'est, vous voyez, c'est un amour non seulement qui aime donner, mais qui aime se sacrifier. Il y a une grande différence entre le don tout court et le sacrifice. Vous voyez, il y a une grande différence entre l'effort et le sacrifice. Vous voyez, prenez quelqu'un qui prépare un examen. Bon, il a pu faire d'énormes efforts. Quand les gens qui se préparent à l'école normale ou au CAPEX, ils peuvent faire de très grands efforts. Mais ils font les efforts pour un résultat visible. Vous voyez, prenez dans l'Ancien Testament, les patriarches ont eu souvent des vies très difficiles. Mais au fond, sur la terre, ils ont toujours vu leurs résultats. Quand les grands prophètes sont apparus, ceux qui annonçaient la venue de Jésus. Alors, ils ont commencé à faire comprendre qu'il fallait être capable de ce sacrifice, de se sacrifier sans voir le résultat sur la terre. De se sacrifier en restant sur la terre, au fond, que la résurrection, intérieurement, serait uniquement une résurrection d'amour. Et alors, c'est le sacrifice, vous voyez, c'est un don. Il y a un don où on ne voit pas l'utilité. Vous voyez, un don qui ne valorise pas nécessairement. Un don qui n'est pas nécessairement reconnu par les autres. Uniquement reconnu par Dieu. Vous voyez, rappelez-vous le texte que nous avons lu de l'Épître aux Romains. Je crois que c'était le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'était tout récemment. Vous voyez qu'on l'a relu plusieurs fois parce qu'on l'avait relu en semaine. Vous voyez, ou quand saint Paul disait dans l'Épître aux Romains, n'est-ce pas, se sacrifier, donner sa vie pour quelqu'un de juste, c'est déjà dur. Bon, qu'une maman sacrifie sa vie pour son enfant, déjà pas si facile. Vous voyez, qu'un père sacrifie sa vie, au fond, pour ses fils quand il part à la guerre ou n'importe quoi, ben, si vous avez assisté, été tout près, père de famille, disons, parti, donc, vous verrez, c'est pas facile. Ça demande déjà un héroïsme. Et saint Paul dit, mais sacrifier pour des pécheurs, sacrifier pour des gens, en fait, qu'on sait qui continueront à vous considérer comme des ennemis, sacrifier pour des gens qui ne reconnaîtront pas votre sacrifice, qui continueront à vous insulter pendant le sacrifice. Et quand Jésus s'est offert en sacrifice, vous voyez, si les saints, puis 12 encore, ont insisté très fort pour dire que Jésus, tant qu'il était sur la terre, il avait la vision de son Père, mais pleinement conscient, au fond, de toutes les générations qui allaient suivre. Il se sacrifiait en sachant comment les chrétiens, ce serait ce tout petit nombre, comment il y en aurait tant encore qui se moqueraient de son sacrifice. Et quand on pense encore à la télévision française, il y a tout récemment, je crois que c'est la semaine dernière, on s'est moqué de l'Eucharistie d'une façon, mais vraiment très, très pénible. Vous voyez, Jésus a connu tout cela. Vous voyez, et saint Paul nous montre très bien. Parce que quand lui en tire profit en disant, mais pensez comme Jésus nous aime. Puisque, au fond, il s'est sacrifié pour des pécheurs, en sachant que ces pécheurs ne verraient pas du tout, et qu'il était toujours prêt à donner son amour. Alors, c'est ça l'amour de Jésus. Et la grâce, vous voyez, il faut demander pour le prêtre, c'est sa grâce d'amour, mais qui vient directement du cœur de Jésus. Vous voyez, c'est cette grâce d'amour qui donc lui fait comprendre que pour qu'il soit un bon prêtre, il faut qu'il s'efforce sans cesse d'imiter Jésus comme victime. Vous voyez, certes, Dieu dans son miséricorde immense pour nous, il veut bien qu'un prêtre, même s'il n'est pas très très vertueux, même si en fait il est encore au fond plein de défauts, Quand il offre son sacrifice, son sacrifice est tout à fait valide. Quand il donne les sacrements, il est tout à fait l'instrument de Jésus. C'est tout à fait valide. Mais si Jésus a voulu que ce soit un sacrement, c'est parce que vous êtes des témoins aussi de son amour. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mes amis, mes petits-enfants. Jésus, quand il parle à ses prêtres pour les dernières fois, il ne sait plus en parabole maintenant. C'est plus comme faisaient les prophètes. C'est en cœur à cœur direct. C'est comme un frère et parle à ses petits frères et en même temps à ceux qu'il aime profondément. Au fond, Jésus reprend toutes les paroles de l'Ancien Testament au plan de l'amour. Voyez, donc, voyez, présider à la charité. Et comme ça va loin. Voyez, et alors il me semble qu'il faut que nous pensions d'une façon toute particulière encore dans cette ordination, ces quatre ordinations d'avoir cette. Au fond, c'est ce moi. Parce que si l'Église a, dès le début, si dans le corps est apostolique, il y a eu à côté Pierre, il y a eu Jean. Si Jean, même après la mort de Pierre, Jean, c'est pas lui qui a succédé à Pierre comme évêque de Rome. Jean n'a jamais été pape. Et si Dieu a voulu que Jean soit tellement le modèle des prêtres, hein, des prêtres, qu'à la fin de sa vie, il soit en exil, hein, en fait, qu'il soit retiré à toutes les églises qu'il avait, que le don essentiel qui a été fait, ça a été de donner Marie, mais en même temps avec Marie, c'était à lui sans doute que Jésus pensait spécialement quand il disait « Vous aurez le senti sur la terre et les persécutions. » Et surtout les persécutions en mon nom. Vous voyez, bien, les quatre prêtres que vous allez voir, c'est quatre religieux. C'est pas mal que vous sachiez ce que c'est qu'un prêtre religieux. Vous voyez, et au fond là, les dominicains, les jésuites, les petits frères d'Oscan, les petits frères de Saint Jean, ils ont tous les trois, quatre, exactement le même idéal. C'est que leurs supérieurs leur ont dit, vous entrez dans un ordre, vous recevrez le sacerdoce, mais autant que possible, évitez les tâches trop administratives, trop intellectuelles, trop hâtives purement. Surtout, évitez avant tout les tâches honorifiques. Il ferait qu'en fait vous risqueriez au fond de retirer un certain honneur de votre sacerdoce. Surtout au fond que votre sacerdoce n'établisse pas une espèce de classe sociale. Soyez ces pauvres de Jésus, soyez ces humbles de Jésus. Et vous savez comment Saint Ignace, un jésuite, il peut accepter le cardinal là. Tout à fait par exception. En fait, vous voyez, il est pour être un pur prêtre, serviteur des autres. Serviteur en étant tout à fait libre par rapport à Jésus pour donner les sacrements. Vous voyez, mais le sacerdoce étant si grand, vous voyez, Dieu dès le début, Jésus a voulu dès le début, vous voyez, qu'il y ait des prêtres qui ne soient que prêtres, de simples, humbles prêtres. Sans être archiprêtre, sans être archidiacre, sans être même curé. Vous voyez, simple serviteur. Pour être plus, davantage, disait Saint Dominique, et Saint Ignace, exactement la même chose, pour être davantage uniquement à la parole et au sacrement. Pour être tout entier donné à la parole et au sacrement. Mais à l'évangélisation. L'évangélisation impliquant les deux. Voyez, pour que leur parole soit d'abord une parole toute, une sainte prédication, voyez, qui aide à mettre les fidèles en présence de Jésus. Alors vous comprenez que quand ce sacerdoce, quand c'est cette grâce de ce sacerdoce qui est accordée à la demande des supérieurs de ces ordres religieux, Donc, avec ce grade sacramentel qui est différent pour chaque prêtre, ben, parce que si on le constate très bien quand on voit le sacrement de mariage, qu'on se constate de plus en plus qu'il n'y a pas deux foyers semblables, ben, et que chaque époux reçoit les grâces que Jésus lui veut, ben, et que chaque foyer, c'est une petite école d'amour qui a été établie par Jésus, mais tout à fait personnelle, ben, quand il s'agit du sacerdoce, les grâces sacerdotales sont encore plus, je dirais, personnalisées. Vous voyez, c'est Jésus et l'Esprit Saint lui-même qui forment chacun de ses prêtres. Je répète toujours à ceux qui se préparent, quand ils ont fait leur retraite sous les deux, et maintenant c'est une vie nouvelle qui commence. Bon, vous avez pu apprendre toutes sortes de choses, des rubriques, mais vous n'avez pas appris à être prêtre. Vous avez appris des choses très très secondaires. Maintenant, laissez le Saint-Esprit et laissez Jésus vous apprendre, alors, comme le Saint-Esprit seul peut le faire, vous apprendre à être les prêtres de Jésus. C'est lui qui vous apprendra à dire la Sainte Messe. C'est lui qui vous apprendra à confesser. C'est lui qui vous apprendra la prédication qu'il veut que vous donniez. Parce qu'au fond, chaque prêtre, bien, s'il est vraiment pleinement fidèle à Dieu, bien, il donne la parole selon sa grâce, puisqu'il donne la parole comme un ami, bon, non plus comme un serviteur. Bon, un ami, il n'y a pas un code d'amitié. Bon, au fond, surtout quand c'est cette amitié divine de Jésus. Alors, vous voyez combien, quand nous prions pour les prêtres, mais en particulier dans cette ordination, vous voyez, ces quatre prêtres religieux, bon, et qu'en fait, nous y sommes pour quelque chose. Et comme quand il s'agit de l'amour, l'amour divin, ça fait tout de suite commencer la vie éternelle, alors les liens qui établissent demeurent, la grande grâce qu'il faut demander, c'est l'amour, l'amour surnaturel, et puis en même temps l'humilité. Ça fait deux grâces essentielles des prêtres, l'amour surnaturel et l'humilité. Vous voyez, c'est tellement frappant, parce que plus le monde se déchristianise, plus les hommes sont loin de Dieu, plus ils sont exigeants pour leurs prêtres, ou même pour les prêtres tout court, que ces prêtres tout court, ils soient des hommes de Dieu, et en même temps, ils soient surtout très humbles. Et on est très dur pour un prêtre orgueilleux. On est très dur pour un prêtre qui je crois, ça coupe complètement. Au fond, tandis qu'au contraire, ben, il peut être maladroit, il peut même avoir pas bon caractère. Bon, on lui pardonnera encore assez facilement. Si on sent qu'il y a profondément une humilité, parce que l'humilité, ça implique en même temps le désintéressement. L'humilité, ça implique en même temps qu'il ne cherche pas du tout à faire son œuvre. Vous voyez, c'est quand il s'agit du prêtre que c'est si beau de voir ces paroles de Jésus. Quand Jésus dit qu'il vient à réaliser l'œuvre du Père, quand Jésus dit qu'il vient à réaliser l'œuvre de l'Esprit Saint, et qu'il est bon qu'il s'en aille pour que cette œuvre de l'Esprit Saint se réalise, bien, c'est cette œuvre-là qu'il a confiée à ses prêtres. Et vous voyez, si vous prenez le sacerdoce chrétien dans ce sens-là, c'est le pape lui-même qui nous le dit. Les évêques, en fait, ils ont été serviteurs de leurs prêtres. Bon, vous voyez, au fond, l'épiscopat, ça ne donne pas un pouvoir nouveau sur le corps de Jésus. Ça ne donne pas un pouvoir nouveau pour donner le sacrement de pénitence. Hein? La seule chose que ça donne, c'est un pouvoir pour établir des prêtres. Hein? Et pour aider les prêtres à être prêtres. Hein? Ils sont les serviteurs des prêtres. Ce n'est pas les prêtres qui sont les serviteurs. Vous voyez, en fait, ils sont les serviteurs de Jésus. Nous sommes tous les serviteurs de Jésus. Vous voyez, et le pape lui-même, le titre qu'il aime mieux, c'est de dire qu'il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Vous voyez, rappelez-vous comment le pape a parlé des prêtres, au fond, au parc des princes, encore dans la lettre qu'il a écrite pour jeudi saint de cette année, pour ses prêtres. C'est tellement pour leur rappeler, justement, au fond, vous voyez que ce sacerdoce qu'ils ont reçu, ben, vous voyez, c'est ce sacerdoce d'amour, mais en même temps avec l'humilité. Vous voyez ici, je crois que c'est très très important. Nous pouvons tous en tirer profit. Parce que nous avons tous le sacerdoce royal de Jésus. Et il est si bon de tous nous rappeler, vous voyez, que l'amour, vous voyez, et l'humilité vont toujours de pair. Vous voyez, c'est saint Paul qui nous dit lui-même. Vous voyez, on peut avoir quelquefois une foi qu'on a une espèce de charisme pour l'affirmer de façon très forte. Et réellement, on a une grâce particulière pour affirmer sa foi. On peut avoir quelquefois une générosité dans son cœur pour être prêt à sacrifier tous ses biens pour les pauvres. Et saint Paul dit, si on n'a pas la charité sont naturelles. Vous voyez, si on fait ça avec un petit peu d'ostentation, si on fait ça avec un petit peu à être heureux, en quelque sorte, de se faire un nom, qu'on soit reconnu, qu'on soit honoré, c'est vain, dira saint Paul. Vous voyez, d'ailleurs, c'est tellement important de voir, vous voyez, comme l'amour, c'est un don de Dieu. C'est aux plus pauvres et aux plus petits que Dieu donne son amour. Dieu ne donne pas son amour à ceux qui ont le plus de talent. Non. Et pour nous préparer à l'amour de Dieu, c'est nous y préparons immédiatement par l'humilité. Et l'humilité comme la charité. C'est sa seule vertu qu'on a à pratiquer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses frères. Et la seule vertu qui a cette double dimension. Vous voyez, parce que c'est vrai, l'amour, c'est qu'on puise d'abord au cœur de Jésus. Mais en même temps, c'est le même amour qui nous apprend à pratiquer le nouveau commandement, à retrouver Jésus dans chaque personne humaine. Et surtout dans les plus petits et les plus pauvres. Vous voyez, mais l'humilité, c'est la même chose. Il faut être humble immédiatement par rapport à Dieu, hein, mais il faut savoir être humble vis-à-vis de ses frères, savoir s'effacer vis-à-vis de ses frères, savoir prendre la dernière place vis-à-vis de ses frères. Et ça, c'est les deux grandes grâces qu'il faut demander au bon Dieu très très fort, vous voyez, au fond pour les prêtres. Voyez, parce que quand on voit les évêques, quand ils nous parlent, quand ils parlent un petit peu intimement, ils ont tous, enfin, tellement le sens, la nécessité des vocations. Mais en même temps, ils sont un petit peu effrayés parce qu'ils disent en même temps, oui, les nécessités des vocations. Mais en même temps, il faut des prêtres tellement, qui soient tellement bons prêtres. Il faut qu'il y ait des prêtres qui soient tellement complètement donnés à Dieu. Vous voyez, parce qu'au fond, s'ils ne sont pas complètement donnés à Dieu, ben, ils risquent quoi de faire pire que mieux. Jésus a eu tellement de confiance en eux. Il leur a confié le soin des sacrements. Et quand on pense à cette responsabilité extrême d'un prêtre, vous voyez, prenez une pauvre femme, une pauvre, bon, elle a ses enfants, elle ne sait pas trop, elle pratique à moitié. Au prêtre, il a demandé parce qu'il peut baptiser son enfant. Les conditions du baptême, elles vont dépendre de l'enfant. À la fois de le préparer, d'autre part, d'être miséricordieux. Prenez des deux personnes qui viennent demander le mariage maintenant. On ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce que celui qui va avoir la responsabilité de dire, est-ce qu'il faut lui donner le mariage? Est-ce qu'il ne faut pas le décourager surtout? Ou est-ce que c'est le pauvre prêtre? Il y a qui a décidé. La commande pénitence, c'est relativement plus facile. Non. Parce que quand quelqu'un vient humblement vous dire ses fautes, pensez que ce n'est pas un sacrement de jugement, c'est un sacrement de miséricorde. Mais c'est rudement crucifiant pour le prêtre. Il faut savoir qu'il ne peut jamais décourager quelqu'un qui vient. Il ne faut surtout pas que son espérance faillisse. Et puis que d'autre part, il faut être vrai avec lui. Et d'autre part, ben, il faut le rappeler, ben, lui, tout ce que Jésus demande. Et quand il y a tellement de gens qui sont dans des situations irrégulières, comme il faut de la charité pour le prêtre,
comme il faut un désintéressement complet, se soucie de personne d'autre sauf de Jésus, de faire la volonté de Dieu, faire la volonté du Saint-Esprit. Et, au fond, vous voyez, le prêtre, dans sa fonction même, les charismes ne suffisent pas. Les dons du Saint-Esprit, qui sont au service de la foi et de l'espérance, sont très nécessaires comme les charismes, mais ils ne suffisent pas. Il a continuellement besoin du don de sagesse lui-même. Il a besoin continuellement de pouvoir demander au Saint-Esprit en personne, lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vous voyez, il a besoin continuellement, vous voyez, que le contact avec les autres, pour que ce soit un cœur à cœur, contact de deux personnes, et c'est si difficile d'établir, d'être présent à une personne, surtout à notre monde actuel. Et quand vous trouvez en face d'un homme révolté, d'un homme qui est très loin de vous pour toutes sortes de raisons sociales ou politiques, bon, qui ne partage d'aucune manière votre manière de concevoir les choses, il n'a pas du tout votre sensibilité, comme c'est difficile d'être présent à lui. Et comme il faut au fond de la douceur, de l'humilité pour être présent à lui. Et comme continuellement on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Vous dites, il n'y a que le Saint-Esprit. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Au fond, je dirais, pour le prêtre, c'est la très grande grâce du prêtre. Et c'est que constamment, il peut faire au bon Dieu cette prière. Demander au Saint-Esprit, viens à mon secours. Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma sanctification personnelle. Je suis un pauvre type. Mais ce n'est pas pour moi, mais tu vois tout ce que tu m'envoies. Je t'en supplie, c'est pour ton Église. Au fond, parce que comment veux-tu que j'en sorte ? Comment veux-tu que je puisse remplir les fonctions que tu me demandes ? Vous voyez, en réalité, il y a très grande grâce des sacerdoces. Vous voyez, c'est que si on est vraiment un prêtre tout donné à Dieu, qu'on s'efforce de l'être au moins, vous voyez, c'est relativement facile d'être humble. Vous voyez, parce que les fonctions sacré, essentiel qu'on a rempli, des fonctions qui nous dépassent complètement. La sainte prédication. Encore relativement facile de faire un cours de théologie. Encore facile de faire une conversation, si vous voulez, un partage spirituel. Mais la sainte prédication, présenter les mystères de Dieu, opportuner, comme Saint Paul. À tous. Tous les hommes ont le droit de l'avoir. Qu'au moment d'un enterrement, par exemple, quand on est devant le public qu'on a devant soi, qu'on a à peu près tous les gens de son village, tous les gens dont on est confié, vous sont confiés, mais qu'il y en a 10% qui vont à la messe d'habitude. Au fond, comment présenter le mystère de la mort de Jésus, que tout le monde attend ? Comment présenter cette grande réalité qu'on a tous à s'identifier, à vivre ce mystère au moment de la mort ? Se heurter les gens, et cependant les disant avec vérité. Et pourtant en ayant l'impression que au fond, c'est un moment unique. Vous voyez, et cela, pour le prêtre, c'est continuel, en fait, dans son ministère même. Alors, il a tellement, surtout actuellement, vous voyez, il a tellement besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Saint Ignace a fondé son ordre, il sentait qu'il fallait que ses prêtres soient toujours dans la compagnie de Jésus, dans l'intimité avec Jésus, dans cette petite société avec Jésus. Vous voyez, bon, il y avait sens qu'il fallait une petite communauté, mais que ce soit une communauté, c'est toujours Jésus qui est l'inspirateur. Au fond, il ne fallait pas qu'il y ait un autre. Vous voyez, qu'il y ait bien un économe, bien sûr, qu'il y ait bien des ministres, qu'il soit pour tous. Mais que le véritable animateur, ce soit Jésus lui-même. Bon, pour qu'il soit des prêtres. Saint Dominique avait senti exactement la même chose. Vous voyez, et quand on prend maintenant l'abbé Godin, tous ceux qui se sont dit, mais il faut encore des prêtres plus près des pauvres. Il faut encore des prêtres plus humbles maintenant. Il faut encore des prêtres qui, au fond, qui réalisent encore plus complètement l'évangile de Jésus. Il y a encore plus besoin de l'Esprit Saint. Vous voyez, j'insiste avant tout sur ce point de vue de l'amour et de l'humilité. Parce que ça sont les deux grandes grâces qu'il faut demander pour le prêtre. Il mesure son ordination. Et plus important. Mais il faut bien voir que ces grâces en impliquent beaucoup d'autres. Parce que prenez l'amour surnaturel. Ça implique que le prêtre, il soit un homme d'espérance, pour lui et pour les autres. Que surtout, il ne soit jamais désespéré. Que surtout, il ne donne jamais l'impression à quelqu'un qui vient le voir qu'il n'y a plus d'espérance. Pour être toujours un homme d'espérance, pour tâcher d'être pour chacun de personnes qui vient vraiment un témoin d'espérance. Et comme ça demande de réagir continuellement, à la fois contre un monde qui croit sans tout à l'efficacité, qui croit que c'est par la lutte seulement qu'on y arrive. Bon, le prêtre qui sent que Dieu lui a demandé, il ne faut pas oublier, Jésus a dit à Pierre, il a tiré son épée, allez, remets-la. Et que Jésus a guéri lui-même la blessure qu'avait fait Pierre. Et puis que Jésus a fait comprendre à ses prêtres qu'il fallait qu'une nouvelle force, pas la force du soldat, ça ne suffit pas, la force du martyr, mais la force du martyr qui soit prêt sans cesse à mourir pour ceux qu'il crucifie, pour ceux qu'il met à mort, qui prie pour ses persécutés. Mais prier pour ses persécutés, réellement, c'est aimer ses persécutés. Non, tout le temps être à l'effort que tous ceux qui ont pu vous blesser d'une manière ou d'une autre, demandez au bon Dieu que surtout il n'y ait pas de ressentiment. Et en même temps, Jésus veut que le prêtre soit un homme. Ben oui, c'est un homme, c'est un pauvre homme. Oui, c'est au fond qu'il y a, ben, il faut qu'il y ait la sensibilité des hommes, mais qu'elle soit complètement changée. Vous voyez, il y a dans la prière, une prière que le pape a composée pour le concile, pour le jubilé, il dit que nous avons à demander au bon Dieu la grâce d'avoir la sensibilité des saints. Et comme c'est une grâce à demander pour les prêtres, d'avoir la sensibilité des saints. Mais il ne faut pas que les prêtres soient durs. Il faut maintenant que les prêtres on sent toujours, ils sont simplement les représentants de Jésus. Vous voyez, cette espérance, puisque je plains surtout au point de vue de l'espérance, et comme il faut tâcher de les soutenir, les prêtres. Et pour ça, vous n'hésitez pas de leur demander. Il ne faut pas croire que vous les dérangerez, vous les aiderez. Un bon prêtre, il n'y a pratiquement jamais personne qui lui demande de communier. Vous croyez qu'il est ennuyé si on lui demande de communier ? Ben, il dit, tiens, il y a encore des gens qui désirent communier, ben, ça lui rappelle qu'il faut laisser son église ouverte. Non. Au fond, si vous venez lui demander de se confesser, c'est peut-être que la confession, c'est toujours dur. Non. Mais au fond, ça l'amènera peut-être lui-même à se convertir, à changer. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas craindre, bien sûr avec humilité, mais il ne faut pas craindre de demander, ben, de sentir qu'on a besoin. Les prêtres, ils ont besoin de sentir que les fidèles ont besoin d'eux, hein, et qu'on ne veut pas se passer d'eux, et qu'on a besoin absolument d'eux, hein, mais, et qu'on croit à leur sacerdoce. Oui. Bon, et quelquefois, pas craindre un petit peu de correction fraternelle aussi. Des fois, de dire, par exemple, ben, au fond, ben, ça m'étonne que vous ayez une position. Moi, je croyais que vous étiez l'homme de l'espérance. Je croyais que saint Paul, il avait dit, au fond, que quand tout sur le mal surabonde, ben, il faut que la grâce surabonde encore plus. Donc, vous voyez, en même temps que l'amour et le concile l'a très très bien rappelé, vous voyez, c'est l'espérance qui est la plus nécessaire au prêtre. Et pourtant, qu'elle peut être tentée quelquefois de fuite, hein, qu'elle peut être tentée lui aussi de dépression. Vous voyez, qu'elle peut être tentée en quelque sorte au fond de découragement. Et pourtant, bon, et alors, avec cette espérance, ben, qu'est-ce qu'il lui est demandé ? C'est d'être l'homme de la miséricorde, c'est d'être l'homme du pardon. Bon, ça, il y a une grâce extraordinaire qui est faite au prêtre dans la confession, parce que très souvent, il est changé à ce moment-là. Bon, il dit, mais voyez tout ce qui est demandé. Au point de vue de la foi, c'est vrai qu'il faut demander aussi au prêtre d'être fort dans sa foi. Parce que actuellement, les gens sont extrêmement existentiels. Ils ont besoin de témoignages. Ils ont besoin de témoignages objectifs, mais qu'on sent que celui qu'ils donnent, il croit. Mais ça m'a toujours frappé. Quand on entend parler du Saint-Père, il y en a qui peuvent le critiquer. Vous voyez, mais il n'y en a jamais qui disent « Oh, il ne croit pas, lui. » Ils sont bien obligés de dire oh, « ben, on sent qu'il y croit. » Vous voyez, et c'est cette foi vivante et aimante. Vous voyez, c'est bien que les trois vertus théologales, vous voyez, elles sont toutes les trois absolument nécessaires pour le prêtre. Vous voyez, mais ce sont vraiment les vertus qui sont essentielles pour lui. Vous voyez. Et il faut que, et c'est le don de sagesse qui les unit, ces trois vertus théologales. C'est pour ça qu'il en a tellement besoin. Il dit, au fond, et qu'on ne lui demande pas nécessairement d'être prophète. On lui demande de laisser des prophètes prêcher quand il veut. Mais on ne lui demande pas nécessairement d'autres. Mais on lui demande d'être, de donner cette présence de Jésus. On lui demande de pouvoir me donner l'Eucharistie, de pouvoir me donner les sacrements. Vous voyez. Alors, vous comprenez tout de suite comment l'humilité qui lui sera donnée, qui lui sera demandée aussi, cette humilité sous ses différentes formes, mais c'est bon de le voir aussi pour nous. Voyez, parce que l'humilité, il ne faut pas la prendre simplement par rapport à l'orgueil de celui qui nie Dieu. L'humilité, il faut voir, il faut la prendre par rapport aux trois vertus théologales. Vous voyez, il y a une humilité du cœur, il y a une humilité de l'esprit, il y a une humilité de la volonté. Vous voyez, il y a celui qui veut tout faire par lui-même sans demander à Dieu. Bon, celui qui n'accepte pas, au fond, les humiliations. Vous voyez, il y a l'humilité de celui qui est susceptible. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de formes d'humilité. Vous voyez, et en réalité, vous voyez, quand on prend les fonctions différentes du prêtre, tout ça, c'est nécessaire. Le dernier mot que je voudrais vous dire, c'est que si le prêtre, vous voyez, il est le médiateur, il est l'homme des sacrements pour tous, il faut demander qu'il ait d'abord une prédilection pour les plus souffrants, et donc pour les plus agonisants. N'oublie jamais, c'est le moment décisif, qu'il aime les mourants. Il semble que c'est sa première mission. Vous voyez, s'il y a un vrai médecin, et celui qui tient le sens des urgences, les pauvres médecins, à chaque fois, il ne sait rien. Le prêtre, il a toujours un rôle à jouer près du mourant. Vous voyez, et pas seulement près du mourant, mais tous ceux qui sont près du mourant. Vous voyez, alors, il faut demander au bon Dieu qui lui donne cet ordre de la charité, qui semble que ceux qui ont le plus besoin de lui, c'est ceux qui sont le plus près du passage. Qui n'oublie pas que Jésus lui a donné Marie comme mère à la croix. Qui n'oublie pas que son sacerdoce vient de la croix. C'est pas la naissance que Jésus a établi le sacerdoce. Vous c'est pas, il est le ministre de la croix, donc des mourants. Puis ensuite, des tout petits. Parce que, de fait, c'est les vertus théologales, c'est déjà d'abord dans du plus petit. Et ce plus petit a très besoin aussi du prêtre. Et puis, de tous ceux qui sont pauvres d'une manière ou d'une autre dans la société. Tous les marginaux sont dans la société. C'est-à-dire tous ceux qui n'arrivent pas très bien à s'adapter dans la société. Vous voyez, et c'est toujours à cause ou parce qu'ils sont des petits qui sont restés, qui n'ont pas arrivé à se former, ou parce qu'ils sont hantés, qu'ils ont peur, la peur de la mort, la peur de l'angoisse, tout ça se trouve en eux. Vous voyez ? Alors ce sont ces différentes prédilections qu'il faut demander aussi à notre Seigneur de donner à ses frères.